France Culture. Le week-end prochain, le Festival du Livre de Paris ouvrira ses portes, en l'occurrence celle du Grand Palais, à partir de ce vendredi 11 avril jusqu'au dimanche 13. L'occasion pour nous, à Entendez-vous l'écho, de se pencher sur un personnage que l'on peine à qualifier d'agent économique, tant les deux réalités semblent éloignées l'une de l'autre. Et pourtant, ce personnage, c'est celui de l'écrivain, de l'auteur, du romancier, du poète, bref, de celles et ceux qui tentent avec plus ou moins de succès de vivre de leur plume, ou pas, du reste, brouillant encore un peu plus les frontières de la rationalité chère aux économistes, car gagner sa vie en écrivant est-il seulement possible ? Le marché de l'édition est, on le sait, particulièrement concurrentiel. Inondé de nouvelles parutions, il ne laisse que peu de place à qui ne bénéficie pas de la reconnaissance, de la visibilité, du prestige nécessaire pour se distinguer et donc, in fine, se vendre. Et c'est une tension terrible, fondamentale qui apparaît là. La création littéraire doit-elle, peut-elle prendre en compte les exigences du marché, et est-ce vraiment un choix ? Quelle destinée attend celles et ceux qui créent au mépris de stratégies commerciales et que d'aucuns perçoivent comme une contrainte, au mieux un renoncement, au pire ? Les conditions matérielles de l'écrivain imposées par le marché risquent-elles de déterminer son œuvre ? C'est un vaste et très ancien débat qui s'incarne aujourd'hui dans la figure de l'écrivain en homo economicus que nous allons dresser pendant l'heure qui vient en compagnie d'Olivier Bessarban, qui est professeur des universités au sein du pôle des métiers du livre de l'université Bordeaux-Montaigne et enseignant en édition et auteur de l'ouvrage, entre autres, Modernité du livre, paru aux éditions Double Ponctuation en 2023. Et puis, il faut signaler aussi la parution en septembre prochain, donc, chez Actes Sud, l'éloge de la petite édition littéraire. On va sans doute apprendre pourquoi il faut faire cet éloge. Et en compagnie également de Sébastien Dubois, sociologue, professeur à Neoma Business School et auteur d'un ouvrage intitulé « La vie sociale des poètes » paru en 2023 aux presses universitaires de Sciences Po.
J'ai réellement écrit Les Maigrets, non seulement pour gagner ma vie d'ailleurs, mais pour apprendre mon métier de romancier. Parce que contrairement à ce que les gens imaginent, on n'écrit pas un roman comme on écrit une lettre. Tout le monde a l'impression qu'on peut écrire un roman. Pas du tout, c'est un artisanat, je me considère comme un artisan. Avant de faire une table, ou avant de faire un buffet, ou avant de faire un cheval, on apprend son métier pendant plusieurs années. Eh bien, moi j'ai appris mon métier de romancier pendant plusieurs années, d'abord en écrivant des romans populaires, n'importe quoi, juste pour apprendre à mettre des phrases ensemble, à faire entrer un personnage dans le sujet, à l'en faire sortir, à passer d'un dialogue à une description, etc., à rendre cela plus vivant. Et lorsque j'ai cru que j'y étais arrivé, à peu près, j'ai écrit ce que j'ai appelé des romans semi-littéraires, c'est-à-dire j'ai écrit des romans policiers, c'est-à-dire Les Maigrets, pour continuer à apprendre mon métier, mais déjà à un niveau un peu plus élevé. Je commençais déjà à ferrer des chevaux, mais pas encore des chevaux de course, si vous voulez, n'est-ce pas ?
Bien sûr, Jean Chimon, tout cela vous a rapporté énormément d'argent. Est-ce que ça a de l'importance pour vous ?
Aucune. D'ailleurs, comme je l'ai dépensé, ça n'a aucune importance. Il n'existe plus. Ça m'a permis de vivre comme j'avais envie de vivre. Ça m'a permis d'avoir les curiosités que j'avais. Ça m'a permis de découvrir le monde comme je voulais le découvrir. Voilà.
Olivier Bessarban, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, décider d'écrire pour gagner sa vie et aussi pour exercer son métier, finalement, puisque c'est de cela dont il est question, son métier d'écrivain, comme le disait Georges Simenon en 1967 au micro de la radio-télévision suisse à propos notamment de sa série Des Maigrets, est-ce une exception en soi ? Pourquoi, fondamentalement, décide-t-on de devenir écrivain ?
Non, je ne suis pas sûr que ce soit une exception, mais c'est un exemple effectivement très particulier puisque Georges Simenon a été un auteur très connu de best-seller. Donc, on peut dire qu'il est en quelque sorte un auteur tout à fait à part puisque on entend bien qu'il a été porté par une sorte d'ambition, de désir, de rêve. Donc, c'est vraiment une vocation chez lui. Et en même temps, il a eu très tôt la conscience que c'était un métier et il a voulu, comme il l'a expliqué, user de ses talents, mais en même temps perfectionner un petit peu sa technique pour réussir à faire mieux et donc vendre plus. Donc, je pense que rares sont les écrivains à avoir pu en quelque sorte jouer de tous les tableaux et en tout cas bénéficier, pour le cas de Simenon, bah, du soutien d'André Gide et en même temps évidemment réussir à être un gros vendeur de livres en librairie.
Exactement, et c'est peut-être là la véritable exception, comme vous le disiez, de Simenon. C'est celle qu'il gagnait très bien sa vie au moment où il parlait dans cet entretien, donc en 1967. Il était alors âgé de 64 ans. Il est mort avec une œuvre extrêmement vaste de nouvelles et de romans derrière lui, 400 environ, dont les fameux Maigret, qui il y a environ une centaine, un peu plus d'une centaine d'épisodes. Ces romans ont donné lieu aussi à près de 200 adaptations cinématographiques, ce qui n'est pas rien, on va le voir aussi en termes de rémunération. Aujourd'hui, Olivier Bessarbanqui, quelle part des écrivains parviennent véritablement à vivre de leur plume ?
Alors aujourd'hui, peu, en tout cas des personnes comparables à Georges Simenon, nous n'en voyons quasiment aucune aujourd'hui. Selon les chiffres disponibles, on peut estimer qu'il y a environ 2000 personnes à peu près, plus ou moins, hein, qui peuvent réussir à vivre de leur plume en France, c'est-à-dire en tirant des revenus qui leur permettent d'avoir donc de quoi vivre toute l'année. Ce qui évidemment, sur l'ensemble des auteurs existants et sur face à, je dirais, la masse de titres publiés, plus de 100 000 maintenant par an, on voit bien que c'est vraiment très très peu, en fait. Ce qui cache donc, si vous voulez, d'immenses disparités dont j'imagine nous aurons le temps de reparler, et ce qui excite évidemment bien des jalousies.
Et aussi des ambitions et puis même des passions. Vous avez mentionné le mot de vocation sur lequel on va revenir aussi, parce qu'il y a une sorte d'irrationalité qui est impliquée aussi dans ce vocabulaire-là. Sébastien Dubois, bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à Rouen. J'espère que vous n'êtes pas trop essoufflé, car vous venez juste d'arriver à ce qu'on me dit. Alors, vous n'avez pas pu entendre cette archive de Georges Simenon, mais qu'à cela ne tienne, parce qu'on essayait d'évoquer justement cette figure de l'écrivain, de l'auteur, de l'autrice, qui se lancerait aussi en partie pour des raisons financières, pour tenter de gagner sa vie. À partir du moment où l'on s'oriente vers une activité dont on sait qu'elle ne sera pas forcément rémunératrice, c'est ce que nous disait Olivier Bessarbanqui à l'instant, puisqu'on l'a compris, c'est seule une minorité parvient à en vivre. On voit déjà que se dessine un homo economicus bien particulier, c'est l'objet de cette émission. Est-ce qu'il faut pour autant parler de vocation pour les écrivains ? Est-ce que c'est cela qui explique qu'ils se lancent dans l'écriture ? Et qui dit vocation, est-ce qu'il faut voir aussi une forme d'irrationalité dans ce comportement-là ?
Alors, de vocation certainement, d'irrationalité je ne pense pas, mais davantage une rationalité qui obéirait à d'autres logiques qu'économiques, parce que le métier d'écrivain reste très prestigieux, et les écrivains peuvent à la fois chercher à s'accomplir, c'est-à-dire à s'exprimer soi-même à travers des livres, bien sûr, mais aussi à embrasser une activité prestigieuse, intellectuelle. Donc je pense pas qu'il faille parler d'irrationalité, il faudrait plutôt parler d'autres motivations qu'économique, en quelque sorte une rationalité en valeur, comme disait Max Weber, c'est-à-dire que vous calquez vos comportements sur les valeurs qui vous semblent les plus intéressantes pour vous, sur celles que vous défendez, et après vous cherchez effectivement à équilibrer votre vie entre la poursuite de ces valeurs, l'accomplissement de soi, comme on dit en sociologie, et puis bien sûr les enjeux économiques.
Donc on le comprend, il y a certains critères, somme toute, assez rationnel qui pousse un individu à se lancer dans ce monde parfois très cruel aussi de l'édition et de la littérature. Simenon nous parlait d'autre chose aussi, et on a commencé à l'aborder avec Olivier Bessarbanqui. C'est l'idée d'un métier d'écrivain que Simenon comparait à un artisan, et donc d'une certaine compétence, d'un certain savoir-faire. Dans quelle mesure, Sébastien Dubois, être professionnel, c'est nécessairement pouvoir vivre de ses écrits ?
Alors là, je crois
distinction.
Oui, je vous en prie. Je pense qu'il y a une distinction. Il y a en fait une triple distinction à apporter. Vous avez des écrivains professionnels au sens où, comme le disait Olivier, ils vivent de leur plume. Vous avez des écrivains qui sont professionnels dans le sens où ils sont intégrés dans des réseaux professionnalisés. Ils publient à compte d'éditeurs, ils sont invités, ils ont des bourses, des résidences, etc., financées par l'État. On en reparlera sans doute. Ils sont invités à des festivals, etc. Et puis vous avez effectivement beaucoup d'écrivains amateurs qui eux, écrivent sans rentrer, ni dans une logique économique, puisqu'ils ne gagnent pas d'argent, mais ni dans une logique, on pourrait dire, professionnelle, au sens où ils seraient intégrés dans un monde professionnel.
Donc il y a vraiment cette idée de vie sociale des poètes, et c'est là le titre de votre ouvrage. Je le rappelle, Olivier Bessard-Banqui, il y a une autre nuance qu'il faut faire aussi, et qui est importante si on veut comprendre, pas forcément ce qui marche et ce qui ne marche pas, mais en tout cas les conditions aussi matérielles d'existence de ces auteurs, de ces autrices. Si on reste encore une fois sur l'exemple de Simenon, qui décidément nous dit beaucoup, beaucoup de choses. Simenon, vous l'avez dit, c'est aussi un genre, celui du roman policier. Est-ce que le succès, donc les conditions matérielles d'existence d'un écrivain sont liées à un genre spécifique? Est-ce qu'il y a une distinction à faire aussi entre une forme de stratégie qui serait liée à cela?
On peut dire qu'effectivement, de plus en plus, toutes ces dernières années, ce que l'on a vu monter, ce sont effectivement des genres qui sont devenus davantage, comment dirais-je, plébiscités par les publics, et notamment la romance, dont on a pu dire récemment qu'elle a, pour ainsi dire, sauvé les chiffres de l'édition littéraire. Donc il ne fait aucun doute que les plus gros vendeurs de livres aujourd'hui, globalement, sauf pour les auteurs qui sont couronnés par des prix comme le Goncourt, les plus gros vendeurs de livres aujourd'hui sont plutôt des auteurs engagés effectivement dans des écritures dites de genre.
Et par ailleurs, ces auteurs-là, sont-ils forcément des professionnels, entre guillemets, puisqu'on parlait aussi de cette importance de la profession, les auteurs à succès sont-ils nécessairement inscrits dans des circuits littéraires reconnus? Alors, la question des prix mise à part, mais est-ce que ce sont des professionnels qui viennent de ce milieu-là, qui ont été formés pour cela, ou est-ce que ce sont des individus qui y viennent un peu par hasard et qui finalement trouve le succès?
Non, ce que disait Sébastien est tout à fait juste. Il faut probablement user du terme de professionnel à partir du moment où, comme Simenon, étant entré en quelque sorte dans une activité qui est devenue lucrative, voire très très lucrative, évidemment ces personnes ont eu à cœur en quelque sorte d'améliorer leur manière, leur technique, et donc de travailler pour essayer d'atteindre une sorte de point de perfection dans leur domaine, que ce soit le roman policier, que ce soit la romance, etc. Et donc on peut dire que, je ne sais pas s'il nous faut citer les noms des auteurs que nous retrouvons en tête de gondole et qui ne sont pas forcément ceux qui sont reçus avec le plus de chaleur à France Culture, mais enfin, globalement, tous ces auteurs de Guillaume Musso et quelques autres, je ne sais pas, Aurélie Valogne, etc. Ce sont des auteurs qui, comme Simenon, ont mis des années avant de trouver en quelque sorte la bonne forme et qui probablement aussi sont bien entourés en quelque sorte pour proposer un produit au public qui est calibré ou standardisé pour répondre aux attentes de leur public cible.
Donc c'est intéressant parce qu'on a un premier paysage qui commence à se dessiner. On a cette polarisation dont vous avez parlé, Olivier Bessard-Banqui, cette idée que finalement très peu parviennent à véritablement vivre de leur plume, mais aussi, et c'est ce que vous nous dites en creux, mais aussi cette idée qu'il y a une sorte d'ouverture aussi du monde littéraire en fonction des genres qui fonctionnent. Sébastien Dubois, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement il y a une forme de diversification des profils? Il y a de plus en plus, non seulement de plus en plus de gens qui deviennent écrivains, mais aussi avec des profils de plus en plus diversifiés.
Oui, alors je voudrais juste faire un tout petit point d'histoire et une toute petite distinction pour commencer, puis je réponds à votre question. Les livres, comme tous les produits culturels, sont évalués sur deux échelles. L'échelle commerciale, c'est un produit qui se vend, mais aussi l'échelle artistique, c'est-à-dire la qualité littéraire. Or, les acteurs engagés dans la valorisation d'un côté de l'économique et de l'autre de l'autre artistique ne sont pas toujours les mêmes, et c'est pas quelque chose qui est nouveau. Un des très gros vendeurs au 19e siècle de romans, c'était Georges Genet, qu'on a à peu près oublié. Et donc les genres se répartissent aussi selon cette échelle-là. Donc Olivier le disait très bien à propos de la romance ou à propos de la fantasy, etc., qui n'apporte pas nécessairement une grande consécration littéraire. On parlera peut-être plutôt des instapoètes des instapoètes sur lesquels j'ai travaillé. On voit à peu près la même chose, alors que les poètes, eux, acquièrent beaucoup de prestige, mais pas nécessairement une grande rentabilité économique. Donc oui, il y a une diversification, parce que certains nouveaux moyens, certains genres ont émergé, se sont imposés, notamment les genres populaires. Olivier le disait très bien, hein, la romance, la fantasy et tous les genres dérivés. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez récent et qui en même temps ne l'est pas tant que ça, puisqu'après tout, Gaston Gallimard, disait déjà financer ses livres de poésie avec ses romans policiers.
Et on va faire effectivement cette distinction relation avec la poésie, qui de fait n'est pas forcément le genre le plus populaire, même si vous le dites dans votre ouvrage, il existe des formes de poésie populaire, mais là encore il faut remonter l'histoire. On le voit qu'au-delà des profils des auteurs et autrices à succès qui nous ont beaucoup occupés jusqu'ici, les fameux auteurs de best-sellers, hein, la condition des écrivains et poètes est peut-être plus contrastée. Maxime, jeune écrivain, interprété par Nils Schneider dans Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, film d'Emmanuel Mouret, sorti en 2020, en est un bon exemple.
François m'a dit que tu écrivais des romans.
J'aimerais écrire des romans, mais j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps.
Ah, quel genre de métier ?
Je suis traducteur. Oh. J'ai dit à François qu'en venant ici, je pourrais prendre un peu de temps pour écrire, mais c'est toujours compliqué de m'y mettre.
Pourquoi tu dis que c'est compliqué pour toi d'écrire si c'est ce que tu aimerais faire dans l'absolu ?
Parce que je suis trop ambitieux. Et ce que j'écris pour l'instant n'est pas à la hauteur de mon ambition. Je vois pas l'intérêt d'écrire si c'est juste moyen. Aujourd'hui, tout le monde écrit. Écrire, c'est pas difficile. C'est écrire quelque chose d'intéressant qui est difficile.
Et du coup, t'apprends à écrire des romans politiques, d'amour, d'histoire, personnelle, d'aventure, de science-fiction.
J'aimerais raconter des histoires de sentiments.
Des histoires d'amour.
Oui, en fait, je préfère dire de sentiments.
Ça se passerait à quelle époque ?
Aujourd'hui, de nos jours.
Aujourd'hui, tout le monde écrit, c'est vrai, Olivier Bessard-Banquier, on observe et on assiste véritablement à une augmentation du nombre d'auteurs en France.
Oui, ça tient à bien des choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, depuis les années 80, nous avons vu grimper en flèche le nombre de titres publiés. Il y a donc forcément beaucoup plus d'auteurs qui ont pu être d'ailleurs souvent sollicités par les maisons d'édition. Et puis bien sûr, il y a eu énormément d'envois spontanés de la part d'auteurs qui partout ont des choses à dire et... Probablement que les outils informatiques et numériques qui ont été développés depuis ces années ont facilité, disons, la production de ces œuvres que l'on peut d'ailleurs beaucoup plus aisément envoyer par email à des instances de publication. Donc, les résultats, c'est qu'effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a non seulement beaucoup plus de livres publiés, puisqu'on a donc dépassé en France la barre des 100 000 par an, mais il y a aussi une gigantesque part de textes auto-édités ou auto-publiés par le biais de plateformes, ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un nombre, disons, de personnes que l'on peut identifier comme étant des auteurs publiés donc en très grand nombre. Et puis alors, évidemment, par-delà donc ces chiffres, il y a aussi des personnes qui écrivent et qui, pour l'instant, ne sont pas publiées, mais qui, peut-être demain, vont s'emparer d'outils pour pouvoir se publier eux-mêmes.
Et on retrouve là la différence entre écrire pour écrire et écrire aussi pour et qui nécessite d'entrer dans une forme de sociabilité aussi, un certain nombre de circuits. Sébastien Dubois, là on pourrait se dire qu'on arrive à une forme de contradiction finalement. On voit qu'il y a les possibilités, et notamment grâce à des supports, des canaux nouveaux, les possibilités d'écrire et de se faire reconnaître pour cela augmentent. De fait, le nombre d'auteurs augmente, mais on a quand même dit, et il faut insister sur ce point, que très très peu de personnes vivent de leur plume. Ça reste relativement rare. On pourrait se dire qu'il y a là une forme de contradiction, de paradoxe. Mais là, je fais la référence directement à votre ouvrage, et vous l'avez déjà cité, il faut en revenir à Max Weber, qui établit que dans les sociétés humaines, trois objets sociaux sont extrêmement importants et dont la distribution est particulièrement inégale. La richesse, le prestige et le pouvoir. Dès l'époque des troubadours, dites-vous, la poésie a affaire d'abord au prestige. Alors là, est-ce qu'il faut comprendre, Sébastien Dubois, que cela exclut de fait la richesse ? Est-ce que les poètes sont des homo economicus désintéressés ?
Alors, les homo economicus désintéressés. Alors, désintéressés, vous pensez peut-être à Bourdieu en employant ce mot-là, parce que c'est le mot qu'employait justement Bourdieu. Désintéressés, Bourdieu disait pur, parce qu'effectivement, la recherche du profit économique est secondaire. Cela dit, elle peut arriver, mais elle n'arrive que sur le très long terme. Alors, l'exemple on donne souvent l'exemple d'Apollinaire qui vendit moins de 250 exemplaires d'alcool en 1913 et qui a maintenant franchi le million et demi. Très récemment, Yves Bonnefoy a vendu plus plus de 170 000 exemplaires des planches courbes lorsque le recueil a été inscrit au programme du baccalauréat, mais il avait 90 ans. Voilà, ce qui fait un peu tard pour en faire une carrière, si vous voulez. Voilà. Alors, on parlera sans doute peut-être un peu plus tard de ce que moi j'appelle le quasi-marché du travail littéraire, c'est-à-dire les bourses, les ateliers, etc., etc., qui offrent de nouvelles possibilités aux auteurs. Mais sinon, oui, il faut, on peut éventuellement gagner de l'argent avec la grande littérature, mais tard. Voilà. Ça prend souvent beaucoup de temps. Voilà. Et trop de temps pour qu'on en fasse une carrière. C'est pourquoi Bonnefoy a été toute sa vie un universitaire aussi. On peut prendre l'exemple de Louise Gluck, qui a quand même gagné le prix Nobel de littérature en 2020 et qui, de la même manière, a été universitaire quasiment toute sa vie et a connu la consécration sur le tard, alors que maintenant, sans doute, je n'ai pas les chiffres exacts des ventes de Louise Gluck dans le monde entier, mais en France, ça tourne autour de 20 000 déjà. Donc voilà, il y a cette transformation du prestige en profit économique qui intéresse les auteurs, mais qui intéresse surtout les éditeurs. Parce que quand vous investissez sur ces genres très littéraires et que les auteurs sont consacrés, vous pouvez être un peu près sûr de vendre régulièrement un nombre non négligeable d'exemplaires, parce qu'on est un peu près sûr qu'Apollinaire continuera à se vendre et que Bonnefoy, qui entre aujourd'hui dans toute grande bibliothèque lettrée, à l'école, à l'université, continuera lui aussi à se vendre régulièrement, alors que je ne suis pas sûr que les auteurs, les quelques rares, très rares auteurs auto-édités sur Internet continuent à vendre des livres dans 50 ans.
Ce qui est intéressant avec cette notion de prestige, c'est qu'on a l'impression aussi dans votre ouvrage qu'il s'agit là presque d'un actif à valoriser. Vous le dites, le prestige restera l'atout majeur de la poésie, et ce que peut espérer un poète est d'abord la gloire littéraire. L'argent et le pouvoir dérivent d'abord du prestige qu'accumulent les poètes. Ça reste la condition sine qua non finalement pour arriver quelque part, Sébastien
Dubois. Oui, absolument. Et c'est pas nouveau, puisqu'après tout, c'était son prestige et la reconnaissance qui lui était donnée qui ont fait que Ronsard a attiré l'attention du roi et que Ronsard a pu ainsi accumuler des bénéfices ecclésiastiques qui assuraient sa vie quotidienne. Donc c'était le cas déjà des poètes de la Pléiade ou des troubadours. Là, c'est pas quelque chose de très récent. Ce qui est récent, c'est effectivement l'émergence, on en a parlé, voilà, d'une littérature best-seller qui se vend à des millions d'exemplaires et qui donc transforme le marché, tout simplement. Transforme le marché. Mais cet atout pour le prestige, c'est le cas des poètes, mais c'est le cas aussi de certains romanciers très littéraires. Pensez à Julien Gracq, par exemple, dont la carrière s'est faite aussi sur le long terme, voilà, et qui est aujourd'hui en Pléiade. Donc là, on pourrait faire appel à la notion de convention, c'est-à-dire les formes que suivent ou ne suivent pas telle ou telle œuvre littéraire, et qui permettent de rassembler ou non à court terme un grand public. Donc avec la notion de convention, il y a derrière aussi l'idée d'innovation.
France Culture.
Je suis venu visiter des studios. Je m'installe à Paris.
Ah bon? Mais comme ça t'est venu d'un coup?
Comme une évidence. C'est grâce à toi.
À moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Tu m'as ouvert les yeux, tu m'as donné de l'envie, du courage.
Entendez-vous l'écho?
Le courage de quoi?
D'écrire.
Mais tu rêves, de quoi tu vas vivre?
De l'écriture.
Mais t'es complètement malade! Tu sais que ça peut prendre des années, et encore, si ça marche. Comment tu vas faire pour t'en sortir?
Je sais pas. D'abord, je vais vivre sur mes économies, et ensuite, je trouverai bien des petits boulots.
Aliette Ovine.
Alors nous avons beaucoup parlé des individus et de leur motivation en tant que telle, mais les conditions matérielles et potentiellement leur art même est aussi déterminée par l'état du marché. Alors là, il faut faire un petit point d'étape de ce point de vue-là. Sébastien Dubois, il faut mentionner un fait récent et relativement surprenant. La poésie représente un tout petit secteur de l'édition, mais il a vu son chiffre d'affaires croître de 17% en 2024 et a franchi le cap des 20 millions d'euros. Comment l'expliquer de façon très concrète et très, très rationnelle pour le coup, Sébastien Dubois?
Avec l'émergence de nouvelles formes de poésie qui touchent un public relativement nouveau, plus souvent plus jeune, plus diversifié sociologiquement aussi, et qui sont souvent engagés d'ailleurs dans la chanson ou dans d'autres formes d'art plus populaires, hein, avec les guillemets qui s'imposent. Donc des gens comme Arthur Teboul, comme Coulon, comme Batal, comme Clara Isée, qui atteignent des chiffres de vente effectivement inhabituels en poésie. Habituellement, en poésie, quand on vendait chez d'un livre publié chez un grand éditeur 2000 exemplaires, on était content. Là, on a affaire à des auteurs qui passent la barre des 20 000 exemplaires. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Et puis, je pense qu'il y a aussi en France, on a assez peu d'instapoètes en France. Ce sont les instapoètes.
Les instapoètes qui sont ces poètes qui s'expriment essentiellement sur le réseau social Instagram.
Voilà, qui se sont imposés sur le réseau social Instagram, surtout anglo-saxons, comme Rupicor ou Langlive, etc., et qui ont ensuite été récupérés par des éditeurs, qui ont vu une bonne opportunité de marché et qui vendent effectivement des millions d'exemplaires, au point qu'ils ont d'ailleurs changé la composition sociale du public de la littérature aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et ces poètes-là, par exemple Rupicor, si vous les allez dans n'importe quelle librairie, vous allez trouver les livres de Rupicor avec des chiffres de vente qui sont sans comparaison avec les poètes purs, prestigieux. Voilà, on parlait de Bonnefoy, on pourrait parler de Brubeau, on pourrait parler de Jacotet, enfin voilà, de plein d'autres qui ont évidemment des ventes en grand format ou en tout cas l'immédiat bien inférieures à celles-là. Donc il y a effectivement quelque chose de nouveau qui se passe avec peut-être la création d'une poésie plus populaire et donc plus apte à toucher un large marché sur le court terme.
Et donc un nouvel équilibre, vous mentionniez Bourdieu, donc je le reprends, mais donc un nouvel équilibre entre cette fameuse pureté de la poésie et ce marché du livre poétique, on va y revenir. Olivier Bessard-Banquier, est-ce que cela vaut aussi pour l'édition en général? Là, on a avec la poésie un marché qui se porte bien, qui est dynamique, qui génère de nouveaux talents et qui est porté lui-même par de nouveaux talents. Est-ce que c'est le cas pour l'édition en général? Est-ce que des écrivains pourraient se dire, bon, le marché est plutôt en croissance, j'ai envie de me lancer, ou est-ce que c'est plus compliqué que cela?
Oui, je pense que c'est sans doute plus compliqué, c'est-à-dire que de toute façon, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont portées par différentes choses et qui ont envie de pouvoir écrire et ensuite être publiées. Les outils aujourd'hui disponibles pour s'auto-publier ont facilité les choses pour un grand nombre de personnes, notamment qui s'inscrivent dans ce qu'on appelait jadis des productions de sous-genres ou de sous-catégories et qui aujourd'hui sont plutôt considérés comme des littératures de genre, et qui, ayant eu quelques succès par ce biais, on en reparlera sans doute, ont été ensuite donc identifiés par des éditeurs comme Michel Lafond et quelques autres, et qui ont ensuite été récupérés avec profit par ces maisons et qui ont fait belle carrière en librairie. Donc on peut dire qu'effectivement aujourd'hui ce qui se passe, c'est plutôt une sorte de rééquilibrage, si vous voulez. C'est-à-dire que les productions dites traditionnelles, courantes, paraissent peut-être un peu plus à la peine, mais les plus belles réussites en termes de vente auxquelles nous assistons depuis un certain nombre d'années, encore une fois, mis à part bien sûr les scores tout à fait hors normes des prix Goncourt, etc., ce sont plutôt des livres qui relèvent de catégories dont nous avons parlé et qui ont été évoquées par Sébastien tout à l'heure, donc la romance, la fantaisie, etc. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire dans ces différents genres, il y a des espérances de réussite et des possibilités de faire des choses.
Et Olivier Bessard-Banquier, pour qu'on ait un bon aperçu, ou en tout cas un premier aperçu du fonctionnement de ce marché-là, est-ce qu'à partir du moment où on dit qu'il y a plus de personnes qui publient et donc arrivent sur ce marché-là, c'est comparable à une sorte de gâteau dont il faudrait partager davantage de parts? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne?
Ah oui, il ne fait aucun doute, quand vous regardez l'évolution du tirage moyen, vous voyez très bien que forcément, si l'on est passé de 20-25 000 titres publiés dans les années 80 à plus de 100 000 aujourd'hui, on imagine bien qu'il n'est pas possible qu'il y ait eu des lecteurs multipliés comme les petits pains dans l'Antiquité. Donc forcément, c'est évident, nous vendons beaucoup moins aujourd'hui les livres par titre publié, ce qui n'empêche absolument pas qu'il y ait évidemment de très belles réussites pour tel ou tel auteur. Il y a toujours des livres non seulement qui sont en tête des catégories des best-sellers et qui d'ailleurs atteignent des scores parfois encore précisément supérieurs à ce que l'on pouvait connaître par le passé, avec des titres qui sont maintenant dans des carrières mondialisées, dans des exploitations dites transmédiatiques, etc., comme les 50 nuances de Grey, ce qui veut dire qu'il y a donc de toute façon toujours une sorte comme ça de je sais pas, enfin, de mythe américain ou de mythe total d'une réussite mondiale qui tient des auteurs comme Guillaume Musso, qui, de toute évidence, cherche à pouvoir passer d'une sorte de réussite à l'échelle française pour, en quelque sorte, jouer dans la cour des très grands sur le plan mondial.
D'où les mentions que je faisais des adaptations cinématographiques, entre autres, mais aussi des traductions, sans aller jusqu'au cinéma, mais déjà des traductions qui sont particulièrement rémunératrices. Sébastien Dubois, je crois que vous vouliez réagir.
Oui, alors sur l'augmentation du nombre de titres, elle est très significative, Olivier a tout à fait raison. L'auto-édition compte quand même pour beaucoup. Oui, hein. Oui. Si on regarde les chiffres, un quart des livres enregistrés au dépôt légal, voilà, sont des livres auto-édités. Alors, Olivier l'a très bien dit, on a quelques réussites merveilleuses pour celles qui l'ont vécu. Je dis celles parce que ce sont souvent des femmes, d'ailleurs. Oui. On pense à Agnès Martin-Lugan, Mélissa Dacosta, Aurélie Valogne, etc. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Je pense qu'il faut dire deux choses. D'abord, c'est quelque chose de pas si nouveau, parce qu'il y avait l'édition à coût d'auteur était une entreprise très lucrative à la fin du 19e siècle. Voilà. Et dans quelque sorte, l'auto-édition ressemble beaucoup à ce qu'était l'édition à compte d'auteur à l'époque. C'est-à-dire que on a tout un marché qui s'est fait développer, qui vend des rêves de gloire à des milliers de personnes à partir de quelques têtes de gondole, pardon, qui ont réussi. Mais enfin, la moyenne, et comprenez bien que la moyenne compte les millions d'exemplaires que vendent les rares auteurs à succès, et autour de 20 livres vendus, hein, pour les livres auto-évités. Donc, la très grande majorité ne sont jamais vus. Et il y a même maintenant tout un marché qui exploite cet appétit de gloire, comme au 19e siècle, en proposant du coaching, l'accès à des correcteurs professionnels, etc., etc. Donc là, il y a un vrai marché qui se développe, mais qui est largement miroir aux alouettes.
Il y a tout un écosystème qui se met effectivement en place. Vous avez fait un retour historique, justement, Sébastien Dubois, sur ce fameux 19e siècle. Et effectivement, c'est ce qu'il faut faire pour comprendre la rationalité de cet individu que serait l'auteur et l'autrice.
France Culture.
Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme ?
J'en ai marre. Marre de cette vie de con.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Entendez-vous l'écho ?
T'as tout pour être heureux.
J'ai raté ma vie, quoi, c'est tout.
Bah, qu'est-ce que t'aurais voulu faire ?
C'est très bien. Écrire.
Pourquoi tu l'as pas fait ?
C'est ça, pour crever de faim.
Aliette Ovine.
Voilà, un extrait du film « Je vais craquer » de François Le Terrier, sorti en 1980. On se retrouve quand même, Sébastien Dubois, avec deux réalités finalement qui rentrent l'une dans l'autre. On a l'individu écrivain qui est confronté à la structure d'un champ, un champ littéraire et donc d'un marché qui, de fait, va déterminer ses conditions de vie. Alors qu'on on a vu pour la poésie que le marché se portait plutôt bien. C'est un peu la même chose pour le monde de l'édition, mais avec peut-être un dynamisme un peu moins fort en 2024. Et de fait, il y a une petite minorité parvient à gagner sa vie, reste à savoir donc comment font les individus qui ne gagnent pas leur vie uniquement en publiant pour se débrouiller. Et là, c'est particulièrement intéressant dans votre ouvrage, Sébastien Dubois, vous le dites, pendant très longtemps sous l'Ancien Régime, il y avait une très forte dépendance à des grands, c'est-à-dire se mettre sous la protection d'un riche mécène. On pourrait dire que c'est déjà l'idée, quelque part, d'un art mis au service d'une forme de pouvoir aussi. Est-ce que ça représentait une forme de contradiction à l'époque ? Dans quelle mesure cela contraignait finalement les artistes ?
Ah ben c'était très directement les grands faisaient appel aux poètes pour célébrer leur gloire, la gloire de leur royaume. C'est pas un hasard si Ronsard, il n'y parviendra finalement pas, mais se met à écrire à la Franciade, qui veut être à la France de la Renaissance ce que l'Énéide a été à l'Empire romain. Vous voyez, donc il y a une ambition à la fois politique, à la fois culturelle et aussi bien sûr la glorification du pouvoir. Donc les mécènes font appel aux poètes comme aux peintres d'ailleurs pour mettre en valeur et transmettre leur propre gloire et diffuser en quelque sorte un message politique. Donc le système du mécénat tourne déjà autour du prestige, mais avec, c'est vrai, une dépendance sociale très forte, puisque les poètes, qui d'ailleurs viennent rarement, on a quelques exceptions, hein, quelques très rares exceptions, mais les poètes viennent très rarement de la grande noblesse, la plupart viennent de la petite noblesse ou de la bourgeoisie, c'est-à-dire de gens pour qui la poésie est une manière d'ascension sociale et de pénétrer les cercles du pouvoir avec le Graal qui, quand les postes seront créés, les postes de poète du roi ou d'historiographe du roi, auxquels les poètes... il y aura une très forte concurrence pour essayer d'obtenir ces postes-là, parce que c'était la garantie de nombreux avantages matériels et immatériels.
Et puis, et c'est là que ça devient particulièrement intéressant. Sébastien Dubois, vous identifiez une grande rupture, celle de la Révolution française, vous le dites, cet ouragan social qui balaye tout, les salons ferment boutiques, et sur les ruines de l'ancien régime, les poètes perdent ce qui depuis des siècles les faisait vivre, l'argent et l'appui des classes dominantes. Ils sont donc contraints de chercher leur pain sur le marché littéraire, dans le théâtre, puis le roman ou la critique, ou bien de se diriger vers un second métier. Alors là, ce moment-là, il est clé. Est-ce qu'il faut le voir comme une forme de précarité redoublée, aller chercher son pain un peu partout, ou au contraire une forme d'émancipation, se dire, bon voilà, au moins je ne dépends plus de ce pouvoir, non seulement de cette reconnaissance sociale, mais aussi du pouvoir et aussi d'une forme de contrainte artistique et créatrice qui dépendait des grands.
À les deux à la fois, je dirais. Alors, on peut prendre effectivement la Révolution comme comment dire la date emblématique de cette rupture. À vrai dire, ça va se dérouler sur plusieurs dizaines d'années. Hein, au début du 19e siècle, les salons se reconstituent un peu. Il y a encore un petit peu de mécénat, mais bon, le modèle est à bout de souffle et le modèle va peu à peu disparaître. Disons aux alentours des années 1850-1860 à peu près. Et donc là, les poètes ont finalement deux choix. Bah, soit se tourner vers des genres plus rémunérateurs, c'est-à-dire écrire des romans, par exemple, ou du théâtre. C'est ce que fera un Victor Hugo, hein, qui gagnera très bien sa vie. Il doit beaucoup à la poésie pour son prestige, mais Victor Hugo gagnera sa vie surtout avec ses romans qui sont des succès européens colossaux. Voilà. Ou alors, comme le fera un Stéphane Mallarmé, déjà plus sage, se consacrer à la poésie, mais avoir un second métier. Mallarmé était professeur d'anglais. Pas très heureux, paraît-il, dans son métier, d'ailleurs. Mais professeur d'anglais, ce qui lui permettait d'assurer sa vie économique quotidienne.
Olivier Bessarbanqui, aujourd'hui l'exercice d'un second métier, est-ce que c'est une forme de norme pour les écrivains qui n'appartiennent pas à cette fameuse toute petite minorité de celles et ceux qui tirent l'intégralité de leurs revenus de leurs publications? C'est quelque chose d'assez courant?
C'est une nécessité puisque effectivement ils ne vont pas pouvoir vivre de l'exploitation directe ou indirecte de leur œuvre, puisqu'en fait évidemment leurs revenus liés disons à cette activité-là, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, ce sont bien sûr les droits d'auteur direct de l'exploitation de leurs œuvres, tout ce qui est lié à la cession des droits pour des exploitations en poche, jadis en version club du temps de la splendeur de France Loisirs, les adaptations bien sûr audiovisuelles, et pour les plus chanceux, comme dans le cas de du Petit Prince, toutes les figurines, ou en tout cas toutes les licences qui peuvent être éventuellement cédées pour des exploitations variées, tout cela peut rapporter parfois beaucoup, mais pour encore une fois une toute petite minorité d'auteurs. Ce qui veut dire que les autres n'ont pas le choix. Ils sont obligés de travailler, d'avoir une autre activité pour vivre, à moins d'avoir bien sûr un conjoint ou une conjointe qui peut faire bouillir la marmite. Bien sûr, ça arrive. Mais c'est ce qui nous conduit à considérer que la rémunération prévue par la loi des auteurs en rapport avec le montant des ventes à placer au fond de toute façon les créateurs dans une nouvelle dépendance. Si jadis ils étaient en quelque sorte au pied des puissants, aujourd'hui ils tirent leur subsistance de ce que le public décide. Et donc le statut d'auteur mécaniquement aujourd'hui pousse quand même l'auteur à se préoccuper de sa réception publique et de sa capacité à pouvoir peut-être toucher un lectorat plus vaste.
Sébastien Dubois.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Olivier. Je rajouterais juste une troisième voie qui est plus récente, qui est ce qu'on pourrait appeler le quasi-marché du travail littéraire. Je dis quasi-marché parce que c'est un marché alimenté par des fonds publics qui ne cherchent donc pas la rentabilité immédiate. Mais l'État fait de plus en plus appel à des professionnels de la culture, y compris des écrivains et notamment des poètes, pour animer des ateliers, leur offre des résidences qui sont d'ailleurs souvent associées à des ateliers, des interventions dans des lycées, des interventions dans des EHPAD, dans des prisons, enfin toute une série d'activités littéraires très souvent à vocation sociale et qui sont bien mieux rémunérées, si on reprend l'exemple des poètes que pour le livre, parce que je disais un poète peut espérer à peu près 2000 euros, disons, d'un livre chez un grand éditeur qui leur a mis 2 ou 3 ans à écrire, donc vous voyez, ça fait pas grand chose, mais si vous faites une lecture ou une performance, c'est entre 300 et 500 euros, vous voyez, certains poètes disent d'ailleurs, même en plaisantant, que le livre est un produit d'appel pour les lectures, les résidences, les ateliers, etc. Ce qui a donné, et c'est relativement récent quand même, une troisième possibilité de vivre de sa plume, voilà, qui est aussi compliqué à vivre, on en parlera peut-être, mais celle de tourner sur ce marché, ce quasi-marché des activités littéraires largement alimentées par des fonds publics.
Alors justement, sur ce travail littéraire, cette notion de travail travail littéraire. L'autrice Lydie Salvert s'était penchée dessus en 2007 lorsqu'elle a publié un portrait de l'écrivain en animal domestique.
J'avais le cou meurtri à cause de la laisse et l'esprit fatigué de l'entendre me dire « C'est noté ?» 20 fois par jour. « C'est noté ?» sur le ton qu'il réservait au personnel de service. « C'est noté ?» Car je devais me rendre à l'évidence, j'étais à son service. Tenu de lui obéir, de l'admirer, de pousser des « oh », des « ah » et des « c'est merveilleux ». Et j'avais beau me prétendre écrivain, j'avais beau me flatter de consacrer ma vie à la littérature, j'avais beau me convaincre du caractère romanesque de la besogne que j'avais acceptée, inconsidérément, il n'en demeurait pas moins que j'étais à la botte d'un patron promu par la revue Challenge, leader le plus influent de la planète, lequel m'avait chargé d'écrire son évangile. C'était le mot dont il avait usé, mi-amusé, mi-sérieux, d'écrire son évangile contre rétribution. Et la somme qu'il m'avait offerte était telle que je n'avais pas eu le cœur de la refuser. J'avais vécu jusqu'à ce jour des droits d'auteur perçus pour des romans qui avaient connu, outre-Atlantique, un succès inespéré. Mais lorsque la proposition me fut faite d'écrire la vie et l'œuvre de Tobold, le roi du hamburger, j'étais, pour des raisons qu'il serait trop long d'exposer ici, complètement désargenté. Depuis que j'étais devenu son écrivain, je notais fébrilement toutes ses paroles et tous ses gestes. Je le quittais aussi peu que son ombre. J'étais son ombre. Il m'avait offert de résider dans son hôtel parisien lorsque ses affaires le conduiraient à Paris et dans sa résidence new-yorkaise lorsque ses affaires le conduiraient à New York. De sorte, avait-il dit, que je sois au plus près de sa vie et dans son intimité la plus étroite. Et j'avais accepté, avec joie, une invitation qui me donnait l'occasion de vivre pour la première fois de ma vie, et probablement la dernière, dans l'opulence.
On l'a vu, le marché du livre se structure puis s'industrialise aussi au XIXe siècle. Il faut dire qu'entre 1816 et 1935, le roman connaît une progression de 1700%. C'est un chiffre qui est cité par Anthony Glinauer dans un ouvrage « Splendeur et misère de la littérature, de la démocratisation des lettres, un ouvrage que je recommande. Olivier Bessard-Banqui, finalement, quand on entend cet extrait, on pourrait se dire qu'il y a un risque aussi de revenir à une forme de privatisation de la création, ce qui était le cas avant que ce marché ne se mette en place, et avec tous les effets que ça a eu, à la fois de précarité mais aussi de libération des artistes. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ?
Privatisation, c'est-à-dire, en fait.
De mettre sa plume au service de fait. Oui. On parlait de fonds publics, mais là, en l'occurrence, c'est clairement une personnalité privée.
Je pense que de toute façon, à partir du moment où ce que l'on a pu appeler les gens de lettres ont eu l'espoir d'arriver à quelque chose par la grâce des qualités qu'ils ont pu développer, ils ont mécaniquement usé de tous les moyens possibles pour essayer d'en tirer effectivement les plus grands avantages. Donc, je dirais, sous l'Ancien Régime, forcément, il s'agissait plutôt d'arriver à des positions très enviables, et j'ai retenu que un certain nombre des personnes engagées dans le processus révolutionnaire y ont été un peu poussées, justement, par les blocages de la société. Par la suite, à partir du 19e siècle, effectivement, beaucoup se sont tournés vers, je dirais, l'exploitation industrielle de leur œuvre à partir des débuts du roman feuilleton. Les autres ont préféré suivre d'autres carrières, parfois d'ailleurs politiques, etc. Effectivement, donc là, pour penser à l'entretien que nous venons... Enfin, l'entretien, excusez-moi, parce que comme c'était un auteur qui parlait à la première personne, j'étais resté sur l'idée d'un entretien, mais c'était un texte donc de Lydie Salvert d'un livre que j'ai lu il y a quelque temps, mais qui est plutôt une charge d'ailleurs. Pense qu'elle insiste au fond sur le risque pour l'auteur talentueux, effectivement, de se mettre possiblement au service de différentes causes éminemment discutables, parce que par-delà tout ce qui a été dit, c'est vrai aussi que donc beaucoup, en quelque sorte, vont trouver leur pitance auprès de directeurs de journaux ou dans les services des maisons d'édition, où il y a évidemment beaucoup de personnes qu'on appelait jadis des nègres et qu'on appelle aujourd'hui des écrivains fantômes, et qui sont là pour mettre en forme des textes, et qui sont donc un petit peu des mercenaires à la disposition des puissants qui veulent pouvoir tirer un maximum de leur notoriété. Et donc, il me semble que Dan Frank, d'ailleurs, en a fait un roman qui s'appelait Roman Nègre. Et donc, c'est encore aussi un moyen d'existence non négligeable pour ceux qui ont à la fois des talents et qui ne gagnent pas assez par leur propre vente.
Et donc, et qui se retrouvent donc dans cette position relativement inconfortable aussi d'avoir des aspirations et puis une réalité économique et matérielle qui les rattrape. Et de fait, ce marché s'impose aux acteurs économiques que deviennent de fait les écrivains et les poètes. Et ce marché impose ses propres lois. Sébastien Dubois, je me demandais, à partir du moment où on refuse ces lois du marché, comme on dit, qu'on préfère s'en écarter, s'en tenir à distance, quelles sont les conséquences? On imagine bien qu'un écrivain sans mécène sous l'ancien régime se retrouve très très dépourvu, mais qu'en est-il des poètes d'avant-garde ou ceux qui refusent explicitement toute forme de rapprochement avec une forme d'élite ou de société bourgeoise et donc la marchandisation du livre? Est-ce que cela revient forcément à s'exclure totalement du système? On pourrait se dire que c'est le cas d'Éluard ou d'Aragon qui, eux, ne sont pas non plus de parfaits inconnus. Est-ce qu'être d'avant-garde est incompatible avec l'idée d'être commercialisé et vendu?
Alors, non. Je répondrai là en deux points. D'abord parce que les mondes de la littérature, on parlait des réseaux professionnels tout à l'heure, sont quand même dans le cas de la littérature littéraire, si vous me passez l'expression, comme la poésie, largement convaincue que la valeur d'un livre ne tient pas au nombre de ventes, mais à la reconnaissance de sa qualité littéraire. Je disais tout à l'heure que les acteurs qui évaluent cette qualité littéraire ne sont pas les mêmes que ceux qui évaluent les performances sur le marché. On parle là plutôt de ce qu'on appelle les pairs, PAIRS, donc les autres écrivains, les artistes, etc., des éditeurs, des critiques, des universitaires, qui fabriquent de la valeur, qui n'a pas nécessairement tout de suite, ou rarement en tout cas, effectivement, une valeur marchande, mais qui peut avoir une valeur littéraire importante. Et puis après, il y a le deuxième facteur qui est toujours le temps. Vous parliez de Breton et d'Éluard. Breton et Éluard, dans les années 20, dans les années 30, ne vendent pas de livres. C'est une idée, effectivement, on a l'idée que le surréalisme s'est imposé, domine la vie intellectuelle, etc. C'est vrai que dans la vie intellectuelle, il compte beaucoup, mais sur le marché, il représente quasiment rien. Alors qu'aujourd'hui, Breton et Éluard sont des auteurs canoniques qui vendent effectivement un nombre très respectable de livres qui figurent dans tous les programmes scolaires, etc. Donc là encore, le facteur temps est important pour comprendre d'abord comment le système fonctionne et puis aussi quelles sont les stratégies et l'intérêt qu'il y a par exemple pour une maison comme Gallimard à avoir publié Apollinaire, à reprendre après les surréalistes, etc. Parce que comme je le disais tout à l'heure, ce sont des ventes lentes, mais ça veut dire aussi des ventes assurées sur le long terme, ce qui est quand même très très précieux quand vous êtes comme un éditeur en train de chercher les moyens d'exister sur un marché très incertain. Donc quand votre fonds vous permet d'assurer un minimum de revenus grâce à ces auteurs consacrés, c'est un atout absolument décisif.
Donc on le voit, la reconnaissance peut tarder à venir, mais elle constitue de fait une forme d'actif finalement à valoriser dans cette vaste manufacture du prestige qu'est l'édition, pour reprendre votre expression Sébastien Dubois. Émerge donc une forme de contradiction entre ce fameux pôle pur et un pôle plus commercial, pôle entre lesquels la production littéraire est en quelque sorte coincée et les auteurs avec, et cette position inconfortable s'exprime pleinement dans les rapports entre auteurs et éditeurs, autres acteurs essentiels de ce paysage économique et littéraire.
Le téléphone est éteint, je ne répondrai jamais plus de rien, je ne me sens pas très bien, depuis la fin des années 80, pourtant la vie est facile, il suffit de baiser les gens droit dans les yeux, mais j'ai le sommeil fragile, de faire simplement bien quand je pourrais faire mieux, et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies, c'est Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies, j'ai pas le refrain qui en dit long, seulement quelques mots brisés dans la gorge. Je fais pas le malin sous les néons, quand je lui mets ma folie dans la gorge. Si l'alcool ferait couper aux larmes, c'est que ça va pas vraiment faire. Parfois j'ai besoin d'un sac en craft, quand simplement respirer devient un effort. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. j'ai plus jamais le goût. Ça va pas du tout. J'irai pas jusqu'au bout. Et à part de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quelques années en Erasmus.
Poésie de l'artiste Chaton, vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Comment vivre de sa plume ? Nous nous interrogeons sur cet homo economicus bien particulier que sont les écrivains, auteurs, autrices, poètes. Une émission programmée et préparée par Diane Devancet, réalisée par Françoise Lefloc et mise en onde aujourd'hui par Anthony Thomasson et Cyprien Delimerville qui assure le duplex depuis Rouen. Où vous vous trouvez, Sébastien Dubois ? Je rappelle que vous êtes sociologue et auteur d'un ouvrage consacré à la vie sociale des poètes et nous sommes également en compagnie d'Olivier Bessard-Banqui, professeur des universités au sein du pôle des métiers du livre de l'université Bordeaux-Montaigne. Sébastien Dubois, une petite parenthèse puisque on sort d'une pause musicale où vous dites d'entrée de jeu dans votre ouvrage que l'économie de la poésie n'a rien à voir avec l'économie de la musique, malgré une certaine confusion assez évidente renforcée par l'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan en 2016. Qu'est-ce qui les distingue à ce point ? Pourquoi vous, d'entrée de jeu, vous sonnez l'alarme, on va dire ?
Je sais pas si je sonne pas l'alarme et c'est vrai que la poésie est proche de la musique. D'ailleurs, on parlait un petit peu des poètes de la Renaissance, de Ronsard, etc. tout à l'heure. À l'époque, la poésie était chantée. Non, c'est tout simplement un point de vue de sociologue. C'est-à-dire que les mondes dans lesquels ils fonctionnent ne sont pas les mêmes. Et quand Bob Dylan, si on peut reprendre l'exemple de Bob Dylan, parce que c'est vrai qu'il est très emblématique. Alors Bob Dylan, Allen Ginsberg, un des grands poètes américains, a dit qu'il était le meilleur poète du XXe siècle. C'est pas un jugement sur l'œuvre de Bob Dylan en tant que tel, mais c'est que Bob Dylan ne vend pas des livres sur un marché du livre. Ce que Bob Dylan fait, c'est vendre des disques et puis des concerts. Donc, il fonctionne sur le marché de la musique. Il a publié un livre, si je ne me trompe pas, de son vivant. Donc, sa trajectoire sociale n'est pas du tout celle de Allen Ginsberg lui-même, de John Ashbery, enfin de Frank O'Hara, enfin plein de poètes américains qu'on pourrait citer, qui ne fonctionnent pas dans le même monde. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'échangent pas les uns avec les autres, mais que les circuits de consécration sont différents et que les circuits de production sont très différents. C'est ça que je veux dire, fondamentalement. Donc le passage de l'un à l'autre, voilà, est tout sauf facile, même si certains, on parlait d'Arthur Teboul par exemple, Arthur Teboul publie des livres de poésie et musicien en même temps. Voilà, il se dit poète, mais il est aussi musicien avec son groupe. Donc il y a des passages bien entendu possibles, mais quand Arthur Teboul vend ses livres de poésie, il est en librairie, et puis quand il est chanteur, il est sur scène où il vend des disques. Donc les deux circuits sont quand même différents, et comme les deux circuits sont différents, ça engendre des comportements quand même assez différents. On voit d'ailleurs, si on conclut avec Bob Dylan, qu'il n'avait pas semblé absolument passionné par l'obtention du prix Nobel de littérature, puisqu'il ne s'était même pas déplacé, tout simplement, je crois, parce qu'il n'a pas besoin du prix Nobel de littérature et que c'est pas cela après quoi il court, tout simplement, voilà.
Et que son capital de prestige est déjà bien constitué.
Sa renommée comme un des plus grands songwriters de l'histoire de la musique était faite depuis longtemps. Donc voilà, je pense pas que le prix Nobel de littérature ait été un enjeu décisif pour lui.
Et en tout cas, les deux univers sont bien à distinguer d'un point de vue social et économique. Nous l'avons dit, la création dite pure et contrainte commerciale née de la mise en marché de la littérature entre parfois en contradiction. Et de cette contradiction et la façon de la gérer découle la façon dont les auteurs vivent très matériellement. Or, cette contradiction est aussi un rapport de force entre le créateur et son éditeur. Tout est question de négociation, comme le racontait Delphine de Vigan dans la série Bookmaker diffusée sur Arte Radio.
Moi, la chance que j'ai eue, c'est que, en fait, cette question, je n'ai pas eu à me la poser, en réalité. Quand j'ai écrit « Rien ne s'oppose à la nuit », ça m'a donné un tel confort, financièrement, pour dire les choses, que je n'avais même pas à me poser la question, à cette question-là pour le livre suivant. J'ai la chance qu'aujourd'hui, bien que vivant de l'écriture, cette question de l'argent, elle ne soit plus là, d'une certaine manière. Voilà. Je me souviens plus trop de la Valoir, à dire vrai, qui était probablement liée au succès précédent de Noé Moi, qui a été ce qu'on appelle un long-seller, c'est-à-dire pas un livre qui explose d'un coup et qui fait beaucoup parler de lui, mais plutôt un livre qui s'installe dans la durée et qui, de fait, je me souviens, c'est un peu trivial, mais mon éditrice m'avait dit, quand Noé et moi a commencé à être beaucoup étudiés dans les collèges, etc., c'est ta retraite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Noé et moi, dans sa version poche et ses versions pédagogiques, continuent de me rapporter finalement un socle de droits d'auteur qui est non négligeable. Donc, l'avaloir pour rien ne s'oppose à la nuit, ça devait être de l'ordre de 30 000 euros. Je pense qu'il faudrait que je vérifie. Ça me laissait à l'époque, évidemment, de quoi voir venir, en fait. Maintenant, je ne suis plus dépendante de l'avaloir. Je touche des droits d'auteur chaque année qui sont liés à mes traductions, qui sont liés aux livres précédents, qui, pour l'instant, je ne sais pas combien ça durera, marchent suffisamment pour me permettre de vivre très confortablement et de financer les études de mes enfants, etc. Et contrairement à d'autres écrivains qui renoncent à leur avaloir, en général, pour avoir des pourcentages plus importants, par exemple, ça peut entrer dans la négociation. Pour ma part, j'aime bien que l'éditeur s'engage.
Olivier Bessard-Banqui, nous arrivons là à la façon dont sont rémunérés les auteurs. On l'a dit, depuis la loi de 1957, les choses sont fixées. L'auteur est payé en pourcentage sur le chiffre d'affaires de l'exploitation de ses œuvres. Mais ce n'est pas parce que ce principe existe qu'il n'existe pas une marge de manœuvre. Très concrètement, que peuvent négocier les auteurs au-delà de ce fameux pourcentage ?
Alors en fait, tous discutent, c'est-à-dire évidemment d'abord le taux qui est en moyenne entre 8 et 10% pour les auteurs, disons, de production généraliste comme la littérature. Et puis souvent, il y a, comme c'était rappelé là, un versement quand la décision de publier a été prise. L'éditeur, si c'est un éditeur solide, avec des moyens, peut tout à fait donc déjà prévoir de verser une somme sous la forme donc de ce qu'on appelle un avaloir, c'est-à-dire une avance sur les droits qui seront à percevoir. Donc cette avance, elle est globalement indexée, ça a été rappelé, sur les espérances de vente qui sont liées au titre promis, mais ça n'empêche pas du tout l'éditeur de pouvoir éventuellement surpayer son auteur s'il le souhaite et s'il s'y sent un peu contraint,
oui,
parce que c'est un auteur qu'il veut absolument garder avec lui, qui est prometteur, qu'il ne veut pas voir partir ailleurs, ou aussi parce que c'est un auteur puissant qui peut siéger dans un jury littéraire, etc. Et donc c'est quelqu'un qu'il va être obligé de choyer et donc dans ce cas-là éventuellement de surpayer, c'est-à-dire qu'au fond la réalité des ventes par derrière ne permettra jamais d'aller en quelque sorte amortir ce qui a été versé sous la forme d'avaloir.
Et vous avez la notion d'amortir qui m'intéresse particulièrement, Olivier Bessard-Banqui. Très concrètement, combien ça coûte d'imprimer un livre, de faire publier un livre? Et je parle là vraiment de noir sur blanc, un roman, quoi.
Alors là, il y a des livres à tous les prix, puisque vous allez prendre en compte tous les frais que vous avez eus et vous allez chercher évidemment à vous rembourser de l'ensemble de ces frais. Si l'on parle de livres de personnes qui sont très connues, bah, ça coûte très cher, puisque vous allez donc leur verser de très puissants avaloirs. Ça peut aller donc jusqu'à des sommes qui sont exorbitantes pour des Michel Houellebecq, etc. Donc là, ça coûte évidemment très cher. Ça ne sera pas rentable en de ça, de dizaines de milliers d'exemplaires vendus, plusieurs dizaines, alors que si, a priori, vous ne payez pas votre auteur, ce qui est le cas pour de petits auteurs, dans ceux qui ont répondu, qui étaient interrogés par la Société des gens de lettres au sujet de leur rapport avec leurs éditeurs, je crois que, si je ne m'abuse, il y en a quand même à peu près un tiers qui ne touchent aucun avaloir. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils ne seront payés en droit d'auteur, s'ils sont payés, que une fois les comptes arrêtés et donc le décompte concret des ventes effectivement réalisé, et à ce moment-là, bah, faire un livre, ça peut ne coûter presque rien. Aujourd'hui, dans une maison, je ne sais pas si on peut citer des noms, mais enfin, dans une maison comme l'Harmattan, faire un livre, ça peut coûter quelques euros à l'exemplaire.
Sébastien Dubois, vous voulez réagir, et je voudrais juste mentionner un acteur très important qu'on n'a pas vraiment mentionné jusqu'ici, c'est le Centre National du Livre, qui accorde notamment aux éditeurs de poésie 5,2% de ses aides, alors que ce secteur ne représente que 0,5% du chiffre d'affaires de l'édition. Tout de même, ça participe aussi à cet écosystème.
Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, je ne sais pas si Olivier voulait réagir ou si...
Non, je vous donne la parole.
Merci, je vous remercie. Non, je vais juste ajouter une troisième figure entre l'auteur et l'éditeur, qui d'ailleurs, du point de vue de l'éditeur, est souvent l'éléphant dans la pièce. Ce sont les agents. Voilà. Mmh. Vous avez aujourd'hui des agents littéraires, ça nous est venu des États-Unis, qui sont de plus en plus puissants et qui sont capables de négocier avec les éditeurs des conditions très avantageuses. Par exemple, Zadie Smith avait négocié pour son premier roman un avaloir donc de 250 000 livres parce qu'elle était défendue par Wiley et que l'éditeur se disait, défendu par Wiley, ça va forcément faire un tabac. Voilà.
Donc c'est ce fameux écosystème dont vous parliez aussi un peu en début de l'émission, qui est lié aussi à une forme de mise en visibilité, aussi de jeu sur la personnalité.
Et d'un intermédiaire de marché, en Exactement. Fait, qui a un rôle très important, à savoir l'agent littéraire. Oui.
Et donc on a un panorama à peu près complet de tous les acteurs de cette vaste filière du livre. Merci infiniment à tous les deux, Olivier Bessard-Banqui et Sébastien Dubois, d'avoir participé à cette émission. Je renvoie vraiment les auditrices et les auditeurs vers vos ouvrages respectifs qui seront mis dans la bibliographie disponible à la page d'Entendez-vous l'écho sur le site de France Culture.